Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un chiffre aujourd'hui à la une, 100 euros. C'est le montant du chèque carburant qu'Elisabeth Borne est venue annoncer ce matin sur RTL. Pour 10 millions de travailleurs les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Tous les détails évidemment dans ce RTL Midi. 100, c'est aussi ce cap symbolique franchi sur le front du Covid, 100 000 cas en 24 heures. C'est plus que l'an dernier à la même époque, alors que paradoxalement, les Français se testent trois fois moins. Le Covid en Chine également, puisque pour la première fois depuis le début de la pandémie, le pays allège sérieusement ses règles sanitaires. Pourtant, là-bas aussi, les cas sont en hausse. Et puis du foot, pas de match aujourd'hui au Qatar, où l'on prépare désormais les quarts de finale avec un invité surprise, le Maroc, tombeur de l'Espagne, et qui s'invite pour la première fois à ce stade de la compétition.
RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part sur les côtes de la Manche, où les ostréiculteurs redoutent les vols d'huîtres à l'approche des fêtes. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, Pascal, on va faire chambre à part. Et si c'était le secret des couples qui durent? C'est d'ailleurs la question du jour sur notre site rtl.fr. Faites-vous chambre à part?
Bah écoutez, chacun sa vie, bien sûr. C'était une question que vous me posiez?
C'est celle qu'on pose aux auditeurs qui sont invités à répondre sur RTL.fr.
En tout cas, autant de sujets dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute le maire de Marignane qui propose au ministre de l'Éducation nationale d'expérimenter deux mesures dans sa commune, le port de l'uniforme et le lever du drapeau en chantant la Marseillaise.
On parlera aussi culture juste avant 13h, c'est votre rendez-vous à LVT Midi. Nous sommes mercredi, ce sera donc cinéma aujourd'hui. La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi,
eh ben,
Peggy?
Encore gris et froid au nord et plus ensoleillé et plus doux au sud.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal. Gris et froid au nord, vous le disiez à l'instant Peggy. Et en pleine crise énergétique, alors que les Français hésitent parfois à monter le chauffage chez eux, de peur de voir leurs factures s'envoler, la baisse de la consommation d'électricité s'amplifie à moins 8,3% la semaine dernière. Retour au basique, donc pour ne pas trembler de froid chez soi, notamment la nuit. Rien de tel qu'une bonne couette, une bonne couverture bien chaude. Et justement, en magasin, elle s'arrache, Nicolas Bobby, vous l'avez vérifié dans le Morbihan.
Un nouveau client accueilli par Thomas vient acheter une bonne couverture au Conforama de Lorient.
Pour les grands modèles, je vais avoir en rose ou en beige.
C'est une couverture polaire, quoi.
En plaid.
Vous l'avez en blanc?
En blanc, non. Et je dois plus avoir de gris, je vérifie quand même.
Ouais, bon, gris, oui.
Moi, je peux aller vous le chercher si vous voulez.
Pierre veut dormir au chaud sans faire exploser sa facture d'électricité.
L'hiver commence à sévir, j'ai un chauffage qui monte difficilement à l'étage. Par exemple, cette nuit, il faisait froid et j'ai pas des couvertures assez chaude. Je le garderai sur le lit que pendant l'hiver. J'ai pas besoin de chauffage d'appoint.
Après la vente, Thomas revient avec un gros carton dans les bras.
Donc là, actuellement, je suis en train de réapprovisionner le rayon couette. On a une clientèle qui vient de plus en plus, notamment avec la crise énergétique. Actuellement, ça part tout seul, oui, comme des petits pains.
Avec le froid qui s'installe en Bretagne, les plaids et les couettes chaudes n'ont pas fini de faire chanter les tiroirs-caisses dans les commerces.
Nicolas Bobby, dans le Morbihan pour RTL, on parlait à l'instant de la facture énergétique. Celle du carburant va s'alléger. 100 euros d'indemnité carburant vont être débloqués pour les travailleurs français les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Annonce ce matin sur RTL de la Première Ministre Elisabeth Borne. 10 millions de foyers sont concernés.
100 euros, est-ce suffisant? Ça sera un thème évidemment tout à l'heure avec nos auditeurs notamment. Le froid qui n'arrange rien sur le front du Covid.
Oui, logements et bureaux moins aérés pour garder la chaleur facilite évidemment la propagation du virus. 100 000 cas détectés en 24 heures, plus que l'an dernier à la même date, alors que l'on fait trois fois moins de tests. Quant au port du masque, eh bien, il est encore très peu respecté malgré les appels à la responsabilité du gouvernement. Ce matin, encore sur notre antenne, la Première Ministre Elisabeth Borne demandait aux Français de faire des efforts, mais écartait toute obligation.
On fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid.
100 000 nouveaux cas hier en 24 heures.
De grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus, le masque nous protège, le masque protège les autres, donc il faut porter
le masque. Et ça, on est tous d'accord, pourquoi ne pas le rendre obligatoire?
Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans le fait qu'ils qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents. Ben, c'est important de se protéger, de protéger les autres. Portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, et il faut vraiment se faire vacciner. On a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests. Je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
Elisabeth Borne avec Amandine Bégaud sur RTL. Les députés insoumis annoncent qu'ils retirent leur proposition de loi sur la réintégration du personnel non vacciné des établissements de santé. Texte que le RN avait décidé d'inscrire à l'agenda de sa journée réservée à l'Assemblée en janvier. Les soignants suspendus n'ont pas vocation à servir les coups de communication du RN, justifie LFI, qui prévient dans le même temps qu'une nouvelle proposition de loi sera bien déposée sur le sujet.
Le Covid et la Chine qui infléchit pour la première fois sa stratégie contre la pandémie.
Oui, le pays est l'un des derniers au monde a appliqué une politique zéro Covid et il allège donc les règles sanitaires, des règles qui ont provoqué il y a quelques jours une vague de manifestations d'une ampleur inédite depuis les mobilisations pro-démocratie de Tiananmen en 89. Alors Hugo Aubry, toutes les règles ne sautent pas, mais le virage est bien net.
Ce n'est pas encore l'abandon total de cette politique zéro Covid, mais c'est en tout cas la fin des mesures les plus controversées, comme les camps d'isolement ou les tests de masse. Désormais, les malades du Covid auront la possibilité de se confiner à la maison, mais rien n'est encore très précis quant aux cas contacts et sur les conditions de cet isolement. La commission de santé donne bien un cap, celui de la réouverture du pays, mais pas forcément le détail de toutes les mesures. À Pékin, par exemple, les commerces peuvent rouvrir, mais pas encore les écoles. Plus besoin de tests pour prendre le métro, mais tests PCR obligatoires de moins de 48 heures, en revanche, pour aller au bureau ou faire du sport. Le gouvernement insiste également sur la vaccination des personnes âgées, mais seuls les vaccins nationaux sont autorisés et on sait très bien qu'ils sont peu efficaces face aux nouveaux variants. Bref, il s'agit surtout de calmer la colère qui monte dans le pays et remettre l'économie en marche, alors que c'est paradoxal, le nombre de malades n'a jamais été aussi élevé en Chine depuis 3 ans.
Hugo Aubry en Chine pour RTL. C'est un tournant dans la guerre en Ukraine. Pour la première fois cette semaine et à plusieurs reprises, des drones ont touché des sites militaires russes à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. On y revient juste après le journal. Et puis coup d'envoi de la COP15 aujourd'hui, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, petite sœur de la COP sur le climat. Les 195 pays présents vont tenter d'adopter un nouveau cadre pour tenter d'enrayer la disparition du million d'espèces végétales et animales aujourd'hui menacées.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Ça y est, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale.
Avec un invité, disons, surprise, le Maroc, tombeur de l'Espagne hier à l'issue des tirs au but, 0-0 après prolongation. Une première pour le pays qui retrouvera en quart le Portugal après un récital là, des Portugais hein, face à la Suisse, 6-1. La suite, ce sera donc à partir de vendredi avec d'abord Croatie-Brésil à 16h, puis Pays-Bas-Argentine à 20h. Et samedi, Maroc-Portugal à 16h et le très attendu France-Angleterre à 20h qui sera à vivre d'ailleurs sur RTL.
Et si la France bat l'Angleterre, elle rencontrera ou le Maroc ou le Portugal en demi-finale.
Et puis, on apprend, ça c'est la petite info bonus, Pascal, que le Belge Eden Hazard met fin à sa carrière internationale.
Le joueur Belge, d'exception.
Joueur d'exception.
Le Zidane belge.
Comme vous y allez. Mais éliminé à l'issue de la phase de poule avec son pays lors de ce mondial au Qatar. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche.
Copier-coller, on va dire.
De quand ?
D'hier, par exemple, d'hier, voilà, à peu de chose près, ou de demain, voilà. Non, demain, ça va changer quand même un peu plus.
Bon,
un petit peu de changement par le sud, voilà.
Plus
le
chaud,
sud aura,
plus froid ?
Non, le sud aura moins de soleil, c'est pas forcément que le nord hein, dont on parle, Pascal. Le sud aura moins de soleil et il va y avoir de la pluie. Pour l'instant, revenons-en à cet après-midi. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de grisailles avec quelques bruines ici ou là sur toute la moitié nord en allant jusqu'au Lyonnais. Encore des averses sur les bords de Manche. Dans le sud-ouest, ça se dégage. C'est beaucoup plus lumineux, même s'il y a un peu plus de nuages au pied des Pyrénées, mais pas grand-chose. Et puis dans le sud-est, c'est bien ensoleillé en allant jusqu'aux Alpes du Nord, comme en Corse, tout ça sous des températures bien froides, c'est vrai, sur la moitié nord, mais deux saisons sur la moitié sud. 3 à Langres, 4 à Nancy, 5 degrés à Strasbourg, 6 à La Rochelle et Paris, 7 à Lille, 8 à Bordeaux, 9 à Marseille, 10 à Agen, 11 à Montpellier, 12 à Tarbes, 16 à Nice et on a même jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Ajaccio.
Effectivement, là, c'est pas très frisqué. Merci beaucoup, Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est l'heure de notre tour de France quotidien, puisque nous nous baladons avec nos correspondants dans toute la France.
Et aujourd'hui, direction Grand Courmaisy, à la frontière entre le Calvados et la Manche. Bonjour Esteban Pinel.
Bonjour, bonjour à tous.
Il y a un peu plus de 170 hectares de parcs à huîtres sur cette zone. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, évidemment, la crainte des vols se multiplie, Esteban.
Et à marée basse, c'est un peu la surprise quand les ostréiculteurs relèvent les poches d'huîtres.
Ça vous est déjà arrivé, vous, de découvrir une poche un jour qui était ouverte, qui avait été volée ?
Ah oui, 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 ça arrive. Ça arrive même des fois plus souvent qu'on le pense.
Alors difficile de quantifier exactement le phénomène, tout de même assez rare par ici. Mais quand ça arrive, les pertes peuvent être assez lourdes, nous dit Xavier au volant de son tracteur.
C'est au minimum entre 12 et 15 kilos de perdu à chaque fois. C'est ce qu'il y a à peu près dans chaque poche. C'est un peu chiant, quoi.
Des vols de promeneurs qui se servent eux-mêmes parfois, mais aussi et surtout des vols entre confrères dont il faut se protéger. Laurent Carrel est ostréiculteur.
On sait que les vols en général, c'est entre ostréiculteurs. Donc effectivement, les numéros sur les parcs, sur les tracteurs, c'est beaucoup plus facile et pour nous et pour les gendarmes qui sont là à faire leur travail.
Depuis quelques saisons, parcs et tracteurs sont numérotés. On sait qui travaille sur quelle concession.
Pour vérifier tout ça, une quarantaine de gendarmes ont donc hier surveillé les entrées et les sorties de la plage.
Un grand balai de tracteurs sous les yeux des militaires et du colonel Christophe Jinquin.
Pour que cette filière soit sécurisée au moment où c'est le plus important pour eux, surveillance à cheval, surveillance en moto tout-terrain, surveillance aussi discrète, notamment de nuit, avec des moyens de vision nocturne, pour être certain qu'on a sur les parcelles les bonnes personnes et qu'il n'y a pas de vol.
Alors avant les fêtes, jusqu'à 10 gendarmes sont mobilisés chaque jour dans la baie, la zone la plus riche en huîtres du Calvados, en plus d'opérations de contrôle plus spectaculaires. Dispositif qui semble faire ses preuves puisque le nombre de gros vols a baissé ces dernières années. C'est devenu assez rare, on le disait. Et dans cette force de dissuasion, eh bien on peut aussi compter sur Hannibal, un cheval, et Eric, son cavalier de la garde républicaine.
Ça permet d'aller très loin et puis de parcourir du terrain et de permettre de contrôler sur des terrains comme ceux-là. C'est plus pratique qu'à pied ou en vélo.
Garde rapprochée tout novembre et tout décembre sur les 175 hectares de parc à huîtres pour veiller sur la période la plus importante de l'année pour la trentaine d'ostréiculteurs de la BDV.
Esteban Pinel qui a mis donc les pieds dans l'eau pour RTL. Merci beaucoup Esteban.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Sophie Jousselin est avec nous. On va parler de l'Ukraine. Est-ce un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? J'ai l'impression quand même que nous posons régulièrement la question du tournant. À force de tourner, on va revenir peut-être au point de départ. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
Est-ce un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Depuis le début de la semaine, des sites militaires russes sont visés par des attaques de drones, pas officiellement revendiquées par Kiev, mais tout laisse à penser que c'est bien l'Ukraine qui est derrière ces frappes. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour, bonjour à tous.
La particularité de ces frappes, c'est qu'elles ont eu lieu à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière, et ça c'est nouveau.
Oui, deux d'entre elles ont touché des bases aériennes à environ 500 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. La base aérienne d'Engels, près de la ville de Saratov. Deux bombardiers russes ont été endommagés. L'autre base aérienne, c'est celle de Ryazan, à seulement 200 km de Moscou. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les forces ukrainiennes ont déjà touché le territoire russe, mais seulement des zones proches de la frontière. On parle souvent de la ville de Bielgorod, qui est à une quarantaine de kilomètres du nord de l'Ukraine. Kiev ne disposait pas des armes nécessaires pour taper si loin, puisque le matériel fourni par l'Occident ne permet pas volontairement les frappes en profondeur.
Est-ce qu'on sait précisément ce que c'est que ces drones ? C'est une nouvelle arme des Ukrainiens ?
Alors oui et non. Non parce qu'à la base, ce sont de vieux drones, des Tupolev 141, qui datent de l'ère soviétique, des années 70-80. Oui, c'est nouveau parce que les Ukrainiens ont modernisé ces drones, qui étaient simplement des drones de reconnaissance à l'origine. Ils les ont transformés en armes, ils y ont ajouté un système GPS. Ils ont donc une nouvelle arme à leur disposition, avec une portée de 1000 km, c'est largement suffisant pour toucher Moscou.
Pascal s'amusait avant la coupure du mot tournant qu'on a évoqué, c'est vrai, plusieurs fois à propos de ce conflit. Mais est-ce que cette fois, on peut dire, en étant un peu plus affirmatif, disons que la guerre prend une autre dimension ? Est-ce que les Ukrainiens vont maintenant attaquer partout sur le territoire russe ?
Alors, on ne sait pas pour l'instant, il ne faut pas parler trop vite. Pour l'instant, les attaques sont très ciblées. Le but, c'est de détruire les bases aériennes où sont stationnés les bombardiers russes, un bombardier qui sert à attaquer l'Ukraine. Mais c'est vrai que la réussite de ces frappes peut encourager les Ukrainiens à aller plus loin, d'autant plus que la défense anti-aérienne russe a été totalement défaillante, incapable de repérer les drones qui pourtant visaient des bases aériennes russes stratégiques. Après, il y a quand même plusieurs inconnus. D'abord, combien les Ukrainiens ont-ils de ces drones? Et surtout, comment va réagir Moscou? Ces frappes ont, paraît-il, un petit peu énervé Vladimir Poutine. C'est surtout l'incapacité de la Russie à les contrer qui l'a énervé. Donc, on peut s'attendre à ce que la défense aérienne russe soit renforcée, si c'est possible.
Et est-ce que ça peut changer la perception du conflit de la part de la population russe?
Alors, pour l'instant, même si ces frappes n'ont touché que des cibles militaires, elles peuvent rendre le conflit encore plus proche de la population, à plus palpable. En plus, elles mettent en évidence les faiblesses de la Russie. Déjà, la mobilisation partielle a touché de plein fouet les familles et a fait de la guerre quelque chose d'encore plus concret. Maintenant, pour la population, savoir que les Ukrainiens peuvent frapper jusqu'à Moscou et au-delà, oui, ça peut effectivement changer sa perception du conflit.
Merci beaucoup, Sophie Josselin.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie. Faire chambre à part, et si c'était la solution pour faire durer un couple. On peut aussi faire appartement à part et faire vie à part aussi. Mais on va en parler tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre vie. Et aujourd'hui...
Je vais encore dormir tout seul ce soir.
Regretter, pas pour tout le monde, puisque on parle aujourd'hui des gens qui font chambre à part, les couples qui font chambre à part, mais volontairement. Un couple français sur 10 fait chambre à part aujourd'hui, selon l'IFOP, en constante augmentation depuis quelques années. Et on va en parler avec un couple qui a fait ce choix-là. Bonjour, Osirine et Béranger.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en couple depuis 5 ans et cela fait un an que vous avez décidé de faire chambre à part. D'abord, comment vous avez pris cette décision? C'était d'un commun accord? Parce que c'est important de le savoir.
Alors pour nous, pour le coup, oui, c'était un commun accord. On n'arrêtait pas de se disputer. Et pour nous, c'était vraiment une solution. C'était la solution face à un ras-le-bol, finalement.
Oui, en plus, c'est une dernière chance. Parce qu'en fait, juste avant, on avait créé une société. Donc on avait une société tous les deux, un magasin de cosmétiques ethniques. Et en fait, tout tournait autour de l'entreprise. On n'avait plus de moments à deux. On se disputait tout le temps. On se supportait pas. Le chiffre d'affaires, tout. Et enfin, c'est un ras-le-bol, voilà.
Ah oui, mais là, c'est un peu différent, si vous me permettez. Vous faites chambre à part, mais vous ne faites pas appartement à part. Vous vivez dans le même appart?
Si, maintenant, on vit dans une maison et du coup, on vit en colocation amoureuse, en fait.
Ah
on
oui, ça, colocation c'est, amoureuse. Oui, c'est un peu... vous voyez, c'est que déjà, ça allait mal.
Bah, bon, au niveau
vous trouvez
de
que ça va mieux, d'ailleurs, depuis?
Ah oui, ah oui, oui, ça va beaucoup, oui, beaucoup mieux.
Vous voyez plus, ça va mieux, quoi.
Non, on se voit toujours. Enfin, chacun a sa chambre, chacun a son rythme, en fait.
Pardonnez-moi de le dire comme ça, est-ce que vous avez une vie intime?
Ah bah oui, ah bah justement le fait de faire chambre à part, tout le monde nous pose la question. Ouais. Bah ça a été la solution en fait depuis notre vie intime
Et
est juste génial. Bon.
Mais vous n'avez pas envie de faire des câlins la nuit quand on aime quelqu'un, on a envie de se lever avec lui, de s'endormir avec lui, de le sentir, d'être dans son lit, sous la couette. Il fait froid, c'est ça généralement l'amour.
Bah oui, mais c'est ce qu'on fait aussi en fait.
Ah, c'est-à-dire finalement, en fait, on passe beaucoup de nuits ensemble.
Et oui, c'est ça.
Vous faites pas chambre à part du tout, en fait.
Ah si.
Si. Vous faites chambre à part, mais pas lit à part, quoi.
Bah c'est quand, en fait, comme on a maintenant que chacun a un métier différent, c'est-à-dire qu'on a quand on a besoin de temps pour nous, de travailler sur soi, c'est chacun dans sa chambre. Après, quand on a besoin de moments à deux, bah on demande à l'autre et on dort ensemble. Et quand ça fait trop, chacun repart dans sa chambre. Enfin, c'est vraiment comme ça.
On s'invite.
Ouais, on s'invite vraiment. L'autre n'a pas le droit d'entrer dans la chambre de l'autre sans autorisation. Donc, quand je veux un moment intime ou juste passer du temps avec lui, je lui demande est-ce que je peux venir dans ta chambre ce soir? Est-ce qu'on peut dormir ensemble ce soir? Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est même plus unique maintenant de savoir qu'on veut vraiment passer du temps ensemble et c'est pas juste du quotidien. On dort ensemble tous les soirs et on prend plus le temps de se regarder. Donc, voilà.
Ça permet de pas vivre aussi sur ses acquis, je pense.
Oui.
En fait, vous formalisez le consentement chaque jour de manière très, très formelle, c'est pas la routine quoi. Dormir ensemble, c'est un beau moment qu'on décide de partager.
Exactement.
Parce que je sais qu'au début, moi je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup prendre soin de moi, m'acheter des petites lingeries. Ouais. Et au fil des années, au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que j'avais plus rien. Plus rien ne me suffisait. Et surtout quand je voulais lui faire une surprise, j'achetais et il le voyait dans la chambre. Je ne suis pas quelqu'un qui range forcément tout le temps. Donc la surprise était un peu gâchée. Alors que là, maintenant, j'achète mes petits vêtements, je les mets dans ma chambre, comme il n'a pas le droit d'entrer. C'est réellement une surprise. Il me dit, ah, c'est nouveau ça. Donc c'est vraiment, c'est mieux quoi, non ?
Non, ça mais vous avez l'air de bien aller, mais vous n'avez pas d'enfant ?
Non.
Et vous imaginez vous marier, avoir des enfants ?
Oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Donc vraiment prendre le temps de profiter de l'un de l'autre. Et le mariage, même c'est pour bientôt, dans 2-3 ans, j'imagine.
Donc ça réveillait d'une certaine manière la libido ?
Oui.
Ah oui.
Hein ? Oui.
Ah, ça, c'est important. Et quels sont les autres avantages ?
Comme on a dit, le fait de...
Est-ce que vous dormez mieux, par exemple ?
Ah oui.
Ah bon ?
Mais en fait, nous, on dort mieux ensemble, pour le coup, que séparément. Mais c'est surtout, en fait, le chambre à part, c'est surtout en fait pour nos personnalités qui sont très très différentes.
Ouais.
C'est-à-dire que on a découvert récemment que Béranger était autiste, et en fait tout le début de notre relation, ça a été très compliqué parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, et c'était dû à son autisme. Et moi, j'ai une personnalité vraiment très très différente et très extravertie, ouais. Beaucoup d'énergie, il a besoin de calme.
On devine qui est plutôt meneur dans le couple. En nous entendant tous les deux, on devine un peu qui est plutôt leader.
Il a un petit côté psy, Pascal, hein, je vous préviens.
Je crois que tout le monde a la même perception. On n'a pas besoin de...
Après, ça se défend parce que au fil des années, Béranger s'est découvert.
Bien sûr, il a le droit de parler de temps en temps, Béranger. Il est très heureux, même Béranger. Qu'est-ce que vous me racontez là ?
Je vais pas mentir, c'est vrai qu'au début, j'avais plus, j'étais en position de supériorité.
Non, vous croyez ?
C'est ça.
Mais voilà. Béranger, il est surtout très content, parce que vous vous occupez bien de lui, et vous l'aimez.
Exactement, et c'était ça un peu le problème aussi de
pour le coup, on était vraiment dans une relation toxique, c'est-à-dire moi j'étais un peu comme un patient et elle une infirmière.
Psychologique, je les réglais, il n'avait pas du tout d'autonomie, et en fait la chambre à part, ça permet de séparer tout ça, donc il s'occupe de lui, je m'occupe de moi, et j'ai plus à le materner en fait.
Chacun se responsabilise finalement.
Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est ce que disait Elisabeth Borne ce matin, pareil, tout le monde se responsabilise désormais.
Comment ça a été perçu cette décision quand vous en avez parlé autour de vous, dans vos familles, chez vos amis, le choix de faire chambre à part comme ça.
On en parle. La relation avec la famille est pas trop. On n'a pas trop de relation avec la famille, honnêtement. Mais ma mère.
Votre famille à part.
Oui, aussi. Exactement. Parce que chacun gère sa famille aussi. Mais ma mère, quand je lui en ai parlé, au final, elle me dit c'est comme vous voulez. Mais tout de suite, c'est est-ce que ça va dans votre couple ?
Ah oui,
est-ce qu'il y a un problème ?
Ouais.
Mais quand je lui explique, ça va mieux même, en fait, depuis qu'on fait chambre à part, ils comprennent tout de suite et ils le prennent plutôt bien.
Je pense qu'on sacralise beaucoup le lit conjugal.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'on se dit, comme on ne dort pas ensemble, c'est que ça ne va forcément pas, qu'on se dispute tout le temps, alors que nous, c'est l'inverse. Donc ils nous disent, est-ce que vous avez quand même des moments, ma mère, elle veut vraiment le savoir, est-ce que vous avez vraiment des moments à deux ? Je dis, non, c'est bon, ça va, tout va bien.
Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes sympathique, c'est un bon moment qu'on a passé avec vous dans cette actualité qui est parfois sinistre. Vous nous avez apporté un peu de bonne humeur, de joie de vivre, et vous êtes un couple qui va bien.
C'est censé la retenir.
Exactement. Et n'oubliez jamais cette phrase, quand on dit j'aime le poulet, c'est pas toujours très bon pour le poulet. Ça, c'est très très important.
C'est de qui ça, Pascal ?
C'est Comte Sponville qui dit ça dans un de ses réflexions. Mais c'est vrai d'ailleurs, au nom de l'amour, quand on dit j'aime le poulet, c'est pas toujours bon pour le poulet. 12h28, à tout de suite.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de votre grande édition, Céline.
100 000 cas de Covid en 24 heures en France, c'est plus que l'an dernier, alors que les Français se testent paradoxalement trois fois moins. Et le spectre, une nouvelle fois, d'une pandémie qui pourrait gâcher les fêtes de fin d'année. Un chèque de 100 euros pour les Français les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Une indemnité carburant annoncée ce matin sur RTL par Elisabeth Borne. Qui pourra la toucher ? Comment la demander ? On vous expliquera tout juste après le journal à 12h40. À suivre aussi dans cette édition, Nicolas Sarkozy qui se défend à la barre, le début de la COP15 pour la biodiversité et puis la joie des Marocains au lendemain de la qualification en quart de finale du Mondial. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsock qui nous a déniché des films un petit peu légers pour s'aérer aujourd'hui. On vient d'en parler dans RTL Midi, c'est la question du jour sur notre site internet. Faites-vous comme Orizine et Béranger, chambre à part, vous allez sur le site et vous nous répondez.
On en parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On a la parole 32-10 pour dialoguer comme tous les jours.
La météo à la fin du journal met déjà un indice, Peggy Broche.
Encore gris et froid au nord et plus doux et lumineux au sud.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
À moins de 3 semaines de Noël, voilà qui pourrait gâcher un peu les fêtes de fin d'année. Un cap symbolique vient d'être franchi. 100 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur les dernières 24 heures. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
100 000 cas recensés, c'est 30% de plus que l'an dernier à la même époque. Alors que paradoxalement, on se teste 3 fois moins. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter?
Alors, il n'y a pas de quoi paniquer, mais ce nombre de cas très élevé doit tout de même renforcer notre vigilance. En moyenne, ces 7 derniers jours, on relève 58 000 cas quotidiens. C'est beaucoup, mais c'est toujours le variant Omicron qui circule. Il est moins virulent que les précédents. Si l'on est à jour dans sa vaccination, cette vague peut donc rester gérable. Le problème, c'est que justement, la vaccination patine. Seuls 30% des 60-79 ans sont à jour. 13% des plus de 80 ans seulement ont reçu une dose il y a moins de 3 mois, comme c'est recommandé. Il faut donc absolument que ces publics fragiles se vaccinent rapidement pour pouvoir passer des fêtes de Noël sereines et sans masque en famille.
Et dans les hôpitaux, ça se traduit déjà ?
Oui, les données hospitalières sont en hausse depuis 2 semaines. On compte 20 000 malades à l'hôpital à cause du Covid et plus de 1 000 patients en réanimation. On reste cependant toujours à des niveaux très bas par rapport à la vague de Noël dernier où on comptait 4 fois plus de patients en réanimation.
Agathe Landais, et au Covid s'ajoute la grippe qui progresse. 9 régions sont désormais en phase épidémique. Seul le sud-ouest du pays reste encore relativement épargné. Dans ce contexte, sur RTL ce matin, la première ministre Elisabeth Borne appelle une nouvelle fois les Français à porter le masque quand ils sont dans une situation de promiscuité, dans un lieu clos. Appel à la responsabilité, mais la chef du gouvernement écarte toute obligation dans l'immédiat.
Elisabeth Borne, toujours, qui a aussi annoncé sur RTL une indemnité carburant de 100 euros. Par an, hein, bien sûr, c'est pas 100 euros par mois. Pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes.
Ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, annonce faite alors que la remise de 10 centimes par litre de carburant s'arrête, elle, à la fin de l'année. Ce sera au ménage de demander cette indemnité en se rendant sur le site des impôts, impots.gouv.fr. On y revient avec tous les détails après le journal. Elisabeth Borne, qui se veut par ailleurs rassurante sur le risque de coupure de courant cet hiver, alors que déjà les Français semblent faire des efforts, la consommation a ainsi baissé de 8,3% sur une semaine.
Ma responsabilité, c'est aussi d'anticiper et de m'assurer que tout est prêt. Mais notre première mobilisation, c'est produire un maximum d'électricité, continuer à inciter chacun à réduire sa consommation. Et je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure si on continue à se mobiliser tous. 8,3% de baisse de consommation, c'est très significatif. Il faut qu'on atteigne 10%, c'est à notre portée. Et on travaille avec les producteurs d'électricité, avec les gestionnaires de tous nos réseaux d'électricité. C'est ce sur quoi mon gouvernement et mobilisé 24 heures sur 24.
Elisabeth Borne avec Amandine Bégaud sur RTL. Et à propos de ces risques de coupure, sachez que la rédaction d'RTL se mobilise à vos côtés pour répondre à toutes vos questions sur ce thème. Les coupures, comment les éviter, les préparer, posez vos questions. La brigade RTL vous répond. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse suivante, brigade au singulier @rtl.fr.
Tout à fait autre chose avec Nicolas Sarkozy qui sera à la barre aujourd'hui dans l'affaire des écoutes.
Oui, l'ex-président est jugé en appel dans cette affaire aussi appelée Paul Bismuth, accusé de corruption et trafic d'influence. Et au lendemain de la diffusion des écoutes à l'ENAF, la Cour reprend toute l'affaire depuis le début. Nicolas Sarkozy, lui, se défend et explique que son seul but à l'époque, Anne, c'était de s'en sortir.
Oui, il a levé le doigt comme à l'école pour avoir la parole alors que la cour interroge son avocat, également jugé sur la violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy plaide presque avec des gestes de main saccadés, un ton incisif. Madame la Présidente, avec les écoutes d'hier, on a eu l'impression qu'on était trois à parler de l'affaire Bettencourt. Mais la France entière parlait de l'affaire Bettencourt, qui est le point de départ de toute cette affaire. On a saisi mes agendas. Le lendemain de mon audition dans le bureau du juge à Bordeaux, tout mon PV est dans la presse. Il pivote à gauche, à droite, comme pour convaincre toute l'Assemblée. Je confirme ma très grande incompétence en matière de procédure devant la Cour de cassation. Je n'y connaissais rien. La procédure pénale, c'est pas ma passion. Moi, ma passion, c'était de m'en sortir et donc de récupérer ces agendas saisis par la justice. A-t-il pour cela corrompu un haut magistrat pour peser sur la décision de la Cour de cassation ? C'est sur cette question que les interrogatoires vont se poursuivre cet après-midi.
Compte rendu d'audience signé Anne Le Hénaff pour RTL. La garde à vue de Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs a été levée hier soir sans poursuite à ce stade, a fait savoir le parquet. 6 jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur aux 12 millions d'abonnés.
RTL Midi.
C'est la petite sœur de la COP climat, la COP sur la biodiversité. C'est la 15e et elle s'ouvre à Montréal.
Avec cet appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
C'est à nous de réparer le monde que nous avons. À nous de chérir ce merveilleux cadeau. À nous de faire la paix avec la nature. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la biodiversité, agissez pour l'humanité.
Faites ce qu'il faut, demande Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, aux 195 pays réunis pour tenter d'enrayer, Virginie Garin, la disparition du million d'espèces aujourd'hui menacées.
Oui, il y a aujourd'hui 65% d'animaux sauvages en moins sur la planète qu'il y a 50 ans. Et on le voit en France, il y a moins de moineaux dans les villes, il y a moins de chauves-souris à la campagne, moins d'insectes sur les pare-brises quand on voyage. Alors comme pour le climat, c'est à cause des activités humaines, la surpêche, la déforestation, la chasse, la pollution au plastique, et nous en subissons les conséquences. Quand les pollinisateurs ou les vers de terre disparaissent à cause d'une agriculture trop intensive, notre production alimentaire est en danger. Mettre en péril les écosystèmes, c'est prendre le risque de développer des grandes pandémies. 5 à 6 épidémies comme celle du Covid sont prévues par siècle, préviennent les Nations Unies. Alors comme pour le climat, cet accord qui va être signé peut-être à Montréal vise à créer des aires protégées, des aires marines, des parcs naturels pour protéger au moins 30% de la planète sur la Terre et sur les océans.
Virginie Garin.
Le groupe Apple a nouveau épinglé par l'association Halte à l'obsolescence programmée, cette fois pour ses iPhones.
Oui, l'association qui a déjà fait condamner le géant américain dans un autre dossier, elle accuse cette fois Nathan Bocard d'avoir conçu un système qui empêche la réparation de ses smartphones par des boutiques non agréées.
Oui, car changer l'écran, la batterie ou encore la caméra de votre iPhone coûte souvent moins cher hors du circuit Apple. Pourtant, ce sont exactement les mêmes composantes. Mais l'association soupçonne le logiciel des iPhones de rejeter ces pièces non officielles, ce qui cause de nombreux dysfonctionnements. Une manière pour Apple d'abord de se rendre indispensable à la réparation de ses téléphones, mais aussi de pousser les consommateurs à acheter un nouveau modèle. Et cela pose deux problèmes, économiques et écologiques, selon Laetitia Vasseur, cofondatrice d'Halte à l'obsolescence programmée.
80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone, c'est au niveau de sa fabrication. Donc plus on va pouvoir le réparer, plus on va pouvoir vraiment faire un gain écologique très fort. Et pour le consommateur, évidemment, ça peut être beaucoup moins cher que de racheter un téléphone neuf, et en particulier un iPhone qui coûte souvent assez cher.
Et ce double enjeu est d'autant plus important qu'en France, ce sont 4 millions d'iPhones qui sont vendus chaque année.
Nathan Bocard pour RTL.
RTL, Coupe du Monde 2022.
C'est la surprise de ces huitièmes de finale, vous le savez, le Maroc qui a fait tomber l'Espagne hier.
Victoire qui a été longue à se dessiner, hein, Pascal, au tir au but, alors qu'il y avait toujours 0-0 à l'issue de la prolongation. Mais une victoire historique pour les Marocains qui atteignent pour la première fois les quarts de finale d'un mondial. Alors ce sera samedi face au Portugal, tombeur de la Suisse, lui 6-1. Sébastien Rouxel, vous êtes rue du Maroc, la bien nommée, à Paris, dans une boucherie où l'on a suivi le match et où l'euphorie est loin d'être retombée.
Ah ça non, il suffit de regarder Mohamed derrière son comptoir pour s'en rendre compte. Il regarde en boucle des vidéos du match sur son téléphone et ses yeux brillent toujours autant.
Franchement, je suis encore ému. C'est extraordinaire parce que c'est pas n'importe qui quand même dans le football. Et puis bon, il y avait des voisins aussi qui sont venus regarder. Ça criait de partout et c'était génial, c'était extraordinaire. Il y avait une très belle ambiance.
Place désormais au quart de finale face au Portugal. C'est un défi, mais Abdelhamid y croit.
Oui, contre le Portugal, ça va être dur. Ouais. Mais après avoir éliminé l'Espagne,
c'est une grosse...
rien ne leur est interdit maintenant. Il n'y a que la France qui me paraît inatteignable pour eux.
Affronter la France en demi, justement, Youssouf en rêve.
Peu importe l'équipe qui gagne, ça sera la mienne. Quoi. Une de mes deux équipes passera en finale et j'en serai content.
En attendant, il faut s'imposer samedi. Et Mohamed a déjà invité ses voisins à venir regarder le match ici dans sa boucherie en espérant le même dénouement qu'hier.
Sébastien Roxel, merci beaucoup. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi qu'il vaut mieux passer au sud si on ne veut pas trop se couvrir.
Exactement, parce que c'est vrai que le sud, on a des températures de saison et sur toute la moitié nord, on est bien en dessous. Alors ça va de 3 à Lyon, on a quand même, parce que la grisaille les grisailles vont jusqu'au Lyonnais, donc de 3 à Lyon jusqu'à 19 degrés à Ajaccio, 4 cet après-midi à Orléans, 5 à Reims, 6 à Paris, 7 au Havre, 8 à Brest, 10 degrés à Nîmes, 11 à Montauban, 16 à Perpignan, 15 à Toulon et 17 à Bastia. Maintenant, côté ciel, on a beaucoup de grisailles, ça ne s'évacue pas malheureusement. Alors peut-être que ça peut se morceler, laisser passer un peu de soleil ici ou là, mais bon, globalement ça restera gris avec un peu de brune. Sur les bords de Manche, toujours quelques averses. Dans le sud-ouest, on va retrouver un ciel voilé et un peu plus de nuages sur les Pyrénées. Et dans le sud-est, c'est très ensoleillé jusqu'aux Alpes du Nord.
Merci Peggy.
Une indemnité carburant d'un montant de 100 euros pour 10 millions de travailleurs les plus modestes. On va en parler dans une seconde avec William Galibert et Marie Guerrier. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est trop peu? À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
À partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. 100 euros pour à peu près la moitié des ménages, ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
Elisabeth Borne, la Première Ministre, ce matin sur RTL, qui annonçait donc ce nouveau geste du gouvernement alors que la ristourne de 10 centimes par litre de carburant dont elle parlait à l'instant s'arrête à la fin de l'année. Le gouvernement dégaine ce chèque de 100 euros qui sera offert à 10 millions de travailleurs les plus modestes. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Journaliste au service économie et sociale ici à RTL. Et bonjour William Galibert.
Bonjour.
Journaliste au service politique. D'abord, Marie, on voulait revenir avec vous sur les détails de cette annonce. Un chèque de 100 euros. Qui va pouvoir le toucher exactement?
10 millions de travailleurs modestes, dit Elisabeth Borne. Elle parle des 5 premiers déciles. Qu'est-ce que c'est un décile? C'est un échelon. On a calculé le niveau de vie des Français. C'est réparti en échelons. Donc là, c'est les 5 premiers échelons. C'est-à-dire, en gros, il faut gagner... pas gagner. Il faut avoir comme niveau de vie, donc comme revenu disponible pour vivre, moins de 25 000 euros par an, moins de 1 900 euros pour vivre par mois. Ça ne concerne pas les retraités, puisqu'on ne parle bien là que de travailleurs qui ont besoin de leur voiture pour aller sur leur lieu de travail, donc pas les retraités. Ça ne concerne pas les chômeurs, mais les chômeurs, eux, pourront avoir une autre aide à la mobilité qu'il faudra demander à Pôle emploi.
Parce que là, le chèque de 100 euros, comment on va le demander?
Alors, il faut aller sur le site internet des impôts, impots.gouv.fr, entrer son numéro fiscal et puis ensuite faire une déclaration sur l'honneur pour dire qu'on a besoin de sa voiture pour aller travailler. On entre le numéro de la plaque d'immatriculation et automatiquement, on va recevoir les 100 euros sur le compte bancaire. Si vous êtes deux dans un...
Il n'y a pas de contrôle ?
Alors, on peut contrôler par la carte grise. On peut imaginer qu'il faut que la carte grise y ait une assurance qui soit
accolée.
Mais
sur les revenus, il n'y a pas de contrôle des revenus ?
Si c'est votre numéro fiscal, ils savent très bien ce que vous... Vous entrez votre numéro fiscal, vous entrez le numéro de la plaque d'immatriculation, vous avez 100 euros si vous rentrez dans les critères. Et s'il y a deux personnes dans le couple qui ont besoin, évidemment, d'aller travailler avec une voiture, eh bien là, on entre deux plaques d'immatriculation et on reçoit 200 euros.
Et alors, combien elle va coûter cette mesure au total, Marie?
Alors, la Première Ministre a dit ce matin de l'ordre d'un milliard d'euros. Alors, un milliard, ils ont calculé, hein, ça revient là, le chèque de 100 euros à 10 centimes, elle le disait dans ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, 10 centimes par litre, c'est l'équivalent en fait de la ristourne qui court jusqu'à la fin.
C'est quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière?
C'est quasiment l'inverse du quoi qu'il en coûte. Parce que Pascal, si vous regardez sur la période Covid, le quoi qu'il en coûte pour les ménages, les entreprises, c'est 250 milliards d'euros à peu près. Là, sur 2022, les aides carburant avec les ristournes plus importantes et qui concernaient tout le monde, on était à 8 milliards. Là, on passe à 1 milliard. Bien sûr, c'est pas négligeable, mais enfin, le robinet est gentiment en train de passer de la position ouvert à fond à plutôt du goutte à goutte.
Et ça, c'est possible parce que le prix des carburants baisse aussi en parallèle, Marie.
Oui, alors la première ristourne sur les carburants, elle date du 1er avril et à ce moment-là, on avait dépassé 2 euros le litre de gasoil. Et puis pour le litre de sans-plomb, on était alors à 1,96 en moyenne. Aujourd'hui, il y a 10 centimes de ristourne, mais le litre de gasoil, il est en moyenne à 1,80 et en moyenne à 1,69 pour le sans-plomb. Le prix du pétrole baisse.
Mais ces chèques, quelle impression ils donnent? Comme ça, on a le sentiment qu'on fait parfois, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais que les Français font la manche et qu'on leur donne comme ça au compte-gouttes un peu d'argent.
En tout cas, on est en train de les prévenir que les choses sont en train de se compliquer et que les chèques, même quand ils existent, sont de moins en moins importants et concernent de moins en moins de monde. Donc, l'argent n'est plus là. Et d'ailleurs, si vous avez écouté les interviews d'Emmanuel Macron ce week-end, il nous annonce qu'on se prépare à une année 2023 extrêmement difficile, avec des risques de récession dans l'Union européenne. Donc, on prépare aussi les esprits au fait que ces chèques, en tout cas que le robinet est en train de se tarir.
Mais le pouvoir d'achat, c'est l'obsession du moment pour le gouvernement.
Oui, il y a même presque un paradoxe, c'est que le gouvernement n'est pas très inquiet de la réforme des retraites qui vient, en se disant, de toute manière, oui, il y aura des manifestations, il y aura de la contestation, mais tout ça reste plutôt, on va dire, syndical et ne va pas forcément s'agréger, ne va pas donner une énorme vague de colère. Par contre, c'est vrai que l'accumulation, les prix de l'énergie, plus 15% au mois de janvier, le risque de récession, le risque de coupure énergétique, tout ça est une cocotte minute qu'il faut essayer de désamorcer. Ça, c'est clair que l'hiver va être très difficile
inflation,
à passer.
Inflation, Covid, coupure d'électricité, plus retraite qui arrive. Effectivement, en 2 ans, j'ai dû en oublier encore. En 2 ans, c'est compliqué parfois pour les Français.
Il y a intérêt à gagner la Coupe du Monde, là.
Mais ça, c'est fait. Jérémy, 12h51, à tout de suite.
Il n'y a que ça pour nous remonter le moral.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours de RTL Midi. Aujourd'hui, comme nous sommes mercredi, c'est cinéma. C'est toujours un plaisir de recevoir Stéphane Boutsock.
Bon, ambiance un peu morose, hein. Stéphane, bonjour quand même.
Ben oui, quand même.
Et vous n'êtes pas responsable. Non,
il est joyeux,
froid,
en plus, Stéphane,
COVID.
Quand il vient.
Oui, mais bon, froid, Covid, risque de coupure de courant. Bon, tant qu'il y a de l'électricité dans les salles, allons donc s'aérer avec vous et avec des films qui font du bien pour commencer.
Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé d'Enzo le Croco, une comédie musicale qui marche très bien d'ailleurs. Et ben, cette semaine, je vous propose un chat. Le chat poté 2. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Le chat poté, oui.
Est-ce que vous connaissez Shrek? Vous connaissez Shrek?
Oui.
L'ogre vert.
Oui.
Eh bien, un des personnages secondaires de Shrek, c'est un matou andalou aventurier hispanique qui s'appelle donc le chat poté, qui a eu son propre film, un premier, et qui a maintenant son deuxième film avec toujours musique andalouse, évidemment, puisqu'il vient d'Espagne. Ce chat-là, si vous allez le voir en VO, c'est Antonio Banderas qui le double et c'est absolument réjouissant. Et dans ce film, dans ce deuxième film, il arrive à sa 9e vie de chat et il se rend compte qu'il n'en a plus derrière. Et pour la première fois, il va éprouver la peur. Et c'est tout le thème de ce film. Et franchement, pour les gamins, hein, je suis d'accord.
C'est Noël.
C'est très, 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 très bien
Noël.
C'est les studios DreamWorks. On sait faire côté animation. Une comédie, mais pas que, un peu dramatique. Ça s'appelle Maestro, film RTL de ce début décembre, film de Bruno Chiche, avec un duo inédit en tous les cas à l'écran, Pierre Arditi, Yvan Attal. Ils jouent un père, un fils, tous deux sont chefs d'orchestre. Ça démarre sur un quiproquo un peu vaudevillesque, c'est-à-dire que le papa, Pierre Arditi, va croire qu'on l'engage, lui, pour diriger la Scala, qui est son rêve, il arrive en fin de carrière. Sauf qu'en fait, à la Scala, on s'est trompé de prénom, on a appelé le Dumas père, alors qu'il fallait appeler le Dumas fils, qui est joué par Yvan Attal, lequel va devoir faire accepter à son père que c'est pas lui, mais plutôt le fiston qui était choisi. Donc oui, ça part un peu marrant, et après, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on va mettre sur la table de vieux dossiers qui traînent entre eux. C'est vraiment formidablement écrit, il y a un très beau casting, il y a aussi Miu Miu, il y a Pascal Arbillot, il y a Caroline Anglade. C'est très 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 joliment fait, et très élégamment filmé en plus. Maestro.
Des sujets plus lourds aussi, oui. Stéphane, vous voulez nous parler de Nos Frangins ?
Alors, Nos Frangins, film de Rachid Bouchareb, réalisateur d'Indigène, il y a quelques années déjà, qui s'intéresse là à, c'était pile il y a 36 ans d'ailleurs, la mort de Malik Oussekine. Cet étudiant était en pleine réforme de Vaquet, manifestation lycéenne, étudiante dans la rue. Ce jeune homme qu'on a voulu faire passer à l'époque pour un phalangiste libanais, alors qu'il était totalement français et en train de se convertir au christianisme, a été battu à mort dans une rue de Paris, parce qu'on appelait les voltigeurs à l'époque, ce qui était ces forces de l'ordre équipées de matraques, ils étaient deux par moto. Et dans la même nuit, et ça on en a beaucoup moins parlé à l'époque, il y a un autre jeune homme qui s'appelait Abdel Ben Nayaya, qui lui aussi a été tué. Et ce film de Rachid Bouchareb raconte cette double histoire qui, à l'époque, a été occultée, cachée en partie par le ministère de l'Intérieur. C'est un très, très, très joli film sur le secret, sur la famille, sur ce que c'est que d'être français, de vouloir être français. Je vous propose d'écouter Rachid Bouchareb, qui se rappelle également qu'à l'époque, lui, jeune homme, il commençait à peine le cinéma, eh bien, était totalement concerné à la fois par l'émergence de SOS Racisme, c'est l'époque, et celle aussi du Front National.
C'est pas grand-chose, 35 ans. À l'échelle de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai connu les années SOS. Y avait tous ces artistes qui étaient mobilisés, comme Balavoine, Coluche à l'époque était là aussi, Renaud. Y avait tout un mouvement comme ça, très ample à cette époque. Hein. C'était pas minoritaire, hein. Y avait un vrai mouvement important qui était censé porter des idées. Et il les apportait à un moment, ça n'a pas été long, antiraciste, d'une société fraternelle, voilà, de quelque chose de nouveau, après toutes les tensions des années qui ont précédé. Et puis finalement, en sortant de ça, arrive la cohabitation, tout ça à la fin ne marche plus, quoi, ne marche plus.
Nos Frangins de Rachid Bouchareb. Très belle affiche. Reda Kateb, Raphaël Personnaz, Lina Koudry ou encore Samir Ghesmi. Ça sort donc aujourd'hui au cinéma. J'en ajoute un petit dernier pour la route. Le film s'appelle Les Pires, comme quelque chose de pire. C'est le film qui a reçu le Valois de Diamant, donc la plus haute récompense au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est un film dans le film. Ça raconte le tournage d'un film à Boulogne-sur-Mer et le réalisateur va décider de choisir des gamins, des ados de la cité et il va prendre ceux que les voisins présentent comme les pires. Et on va comprendre qu'ils sont plutôt bons sur le fond, ces gamins qui s'appellent Lily, Ryan, Maëlys et Jessie. C'est un film absolument formidable.
Merci Stéphane. Et on pourra évidemment rebondir avec les auditeurs sur les films de Noël, sur les films que vous avez envie de voir durant cette période. Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma? On va parler également football à partir de 13h02, 13h03. Nous parlerons d'Mbappé avec Jean-Michel Rascol dans une seconde. On rappelle les titres.
RTL Midi.